Bonsoir. Merci d'être là donc pour ce rendez-vous Pôle Info Santé, qui a été créé il y a maintenant une vingtaine d'années. C'est le fruit d'un partenariat entre le CHU, dont l'une des missions est l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France. L'Espace Mendès France, centre de culture scientifique. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre à vous, grand public, d'échanger avec des professionnels de la santé, du milieu hospitalier et généraliste, sur différentes thématiques. Nos intervenants vont se présenter dans un instant. On va aujourd'hui évoquer les progrès en cancérologie de l'enfant. À la fin des exposés, donc chaque intervenant aura une dizaine de minutes à peu près. Dès qu'on aura fini nos interventions, dès qu'ils auront fini leurs interventions, je reviendrai près de vous et je passerai, si vous avez des questions à leur poser, vous en profiterez. Évidemment, essayez de faire des questions le plus généraliste possible, dans le sens où, évidemment, les intervenants n'ont pas de dossiers médicaux, etc. Donc c'est un peu compliqué pour eux sur ces cas très précis. Essayez de faire des questions générales. Si vous n'avez pas envie d'intervenir dans le micro, vous pouvez tout simplement écrire, puisque vous devez avoir dans les documents qu'on vous a donnés une petite feuille pour pouvoir prendre des notes. Donc écrivez votre question et je la lirai sans aucun problème. Donc entre les mains, vous avez des documents qui complètent tout ce qu'on va vous dire. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Vous éteignez vos téléphones portables, si vous pouvez. La séance de ce soir sera filmée et surtout enregistrée. C'est pour ça qu'on a un micro, en fait. Parce que tout ce qu'on va se dire ce soir, vous allez pouvoir le réentendre sur le site du CHU ou sur le site de l'Espace Mendès France. Il y a aussi une fiche d'évaluation dans les documents que vous avez. Cette fiche nous permet tout simplement à nous d'évaluer ce que l'on fait, de voir si on peut améliorer encore, changer des choses, etc. etc. En gros, sur le timing, on se donne jusqu'à 20 heures à peu près, vos questions incluses. Donc du coup, voilà, vous aurez une grosse demi-heure. Si besoin, il y a encore d'autres questions après, on peut évidemment rallonger un petit peu cette conférence. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Si, bienvenue à cette 106e conférence donc Pôle Info Santé. Je vais vous présenter tout de suite nos intervenants. Le professeur Frédéric Millot, responsable du service d'oncologie pédiatrique au CHU, bonsoir. Professeur Guillaume Levard, qui est chef du service médico-chirurgical de pédiatrie au CHU de Poitiers, bonsoir. Et puis Sonia Azakani, qui est infirmière diplômée d'État au service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de jour au CHU, bonsoir. Merci à vous trois. Je vais laisser le micro au professeur Frédéric Millot, puis on se retrouve après avec vos questions. À tout de suite.
Très bien, merci. Merci pour cette invitation pour pouvoir dialoguer et parler un petit peu des cancers de l'enfant. Donc, on avait choisi de parler des progrès. On va vous présenter donc des grandes lignes et bien entendu, l'intérêt, ça sera de discuter ensemble par la suite. Alors, simplement pour faire un bref rappel de ce que représentent les cancers de l'enfant. Alors, sous le terme cancer, on englobe bien entendu tout ce qui est tumeur solide, mais aussi tout ce qu'on appelle les hémopathies malignes, telles que les leucémies, qui donc font partie des cancers. Et vous voyez que déjà, ce sont des phénomènes qui sont rares, puisque ça représente à peu près 1 à 3 % des cancers humains. Donc, on est vraiment dans une pathologie qui est rare, avec peu d'enfants. On considère qu'actuellement, à peu près un enfant sur 500 est susceptible de développer un cancer avant l'âge de 15 ans. En France, cette population d'enfants atteints de cancer représente à peu près 1700 enfants donc de moins de 15 ans, chez lesquels vont être diagnostiqués ce type de maladie. Ce qui représente en Poitou-Charentes, dans notre région, à peu près 30 à 40 nouveaux cas par an. Près de la moitié de ces cancers de l'enfant donc, surviennent chez des enfants, et notamment des jeunes enfants de moins de 5 ans, ce qui est un élément important, notamment dans le cadre de la stratégie thérapeutique, parce qu'on ne pourra pas utiliser les mêmes armes thérapeutiques forcément que l'on peut utiliser chez un adolescent ou un adulte. Je pense en particulier à tout ce qui est radiothérapie et parfois aussi en termes d'intensification de traitement. Alors, ces cancers de l'enfant ne ressemblent pas forcément à ceux de l'adulte. Ici sont listées les principales pathologies cancéreuses rencontrées dans ces deux populations, chez les moins de 15 ans. Donc, vous voyez, on a une prédominance de leucémie, de tumeurs du cerveau, donc les tumeurs cérébrales, et de lymphomes, qui sont des cancers des ganglions. Chez l'adulte, on rencontre, en fin de compte, des cancers qui sont plus des cancers d'organes de type cancer du poumon, cancer du sein, cancer de prostate. Ces cancers n'existent pas dans la population pédiatrique ou éventuellement chez certains adolescents qui ont des facteurs génétiques de prédisposition. Il faut savoir que c'est l'une des toutes premières causes de mortalité dans cette tranche d'âge après les accidents, qu'il s'agisse d'accidents de la voie publique ou d'accidents domestiques. Alors, le débat donc va porter, ou la discussion va porter sur les progrès, et j'ai donc listé les grandes lignes concernant ces progrès, et on pourra en discuter par la suite. Donc, ces progrès reposent sur une meilleure connaissance des cancers. Qu'est-ce qu'on connaît des cancers ? Eh bien, ce sont des données qui vont être recueillies par les registres des cancers pédiatriques qui existent dans différents pays, hein, les USA, la Grande-Bretagne, la France, ainsi que de nombreux pays. Et le but de ces registres, eh bien, c'est de colliger tous les nouveaux cas de cancer pour pouvoir eh bien, en apprendre un petit peu plus sur ces pathologies rares, de façon à avoir eh bien, des données biologiques, des données cliniques et des données de traitement. En France, nous avons essentiellement deux registres nationaux, un registre national des leucémies de l'enfant, dans lequel on spécifie, on rentre bien entendu tous les nouveaux cas par an au niveau français, ainsi qu'un registre national des tumeurs solides de l'enfant, donc qui nous permettent notamment de connaître un petit peu mieux sur le plan biologique, en particulier ces pathologies lorsqu'il y a des projets de recherche. Progrès avec donc basé sur l'amélioration des traitements, et c'est là où il faut parler de la recherche clinique, qui est un élément extrêmement important et qui est l'un des fers de lance de la stratégie thérapeutique chez l'enfant, avec les essais thérapeutiques. Qu'est-ce que c'est qu'un essai thérapeutique ? C'est pour simplifier une stratégie ou une nouvelle stratégie qui va être proposée, hein, et comparée à une stratégie classique, afin de voir si on peut apporter eh bien, des avantages en termes de survie, en termes de séquelles et en termes de diminution des séquelles. Donc c'est un élément qui est vraiment important. Ces essais thérapeutiques ne sont pas forcément basés sur des nouvelles molécules. Hein. Ces essais thérapeutiques peuvent comparer des stratégies thérapeutiques. Hein. On a, par exemple, réussi, grâce à des essais thérapeutiques, à faire disparaître complètement l'irradiation dans un certain nombre de cancers de l'enfant, hein, l'irradiation avec les radiations ionisantes. On a réussi aussi à diminuer donc un certain nombre de ces séquelles qu'on observait auparavant. Il reste encore, bien entendu, beaucoup de progrès à faire, mais avec ces essais thérapeutiques, nous progressons très régulièrement dans ces stratégies thérapeutiques. Je rappelle qu'il y a quelques années, par exemple, pour un traitement de leucémie, on mettait 3 ans. On a comparé dans un essai thérapeutique 2 ans versus 3 ans. On s'est aperçu que 2 ans faisait aussi bien que 3 ans. Donc, actuellement, tous les enfants qui ont une leucémie ont une durée de traitement de 2 ans, hein, ce qui est quand même un avantage pour tous ces enfants qui recevaient des traitements très prolongés. Ces nouvelles molécules, elles sont importantes. Elles sont issues de la recherche fondamentale qui est bien entendu associée à cette recherche clinique, cette recherche fondamentale qui permet d'isoler des cellules leucémiques, d'isoler des cellules tumorales, donc de tumeurs, les mettre dans des milieux de culture et puis de tester in vitro, en laboratoire, des nouvelles molécules qui vont être par ailleurs introduites en cas d'efficacité dans la pathologie humaine. Les taux de guérison, vous le voyez, sont de l'ordre de 70 à 80%. C'est des taux de guérison qui s'améliorent de décennie en décennie et avec un taux de patients guéris qui est quand même important aujourd'hui. Et on considère qu'actuellement, dans la population générale, à peu près 1 personne sur 1000 a été traitée pour un cancer dans l'enfance, ce qui est important. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure en termes de conséquences, bien entendu, à distance, hein, en termes de séquelles, mais aussi en termes de vie sociale, vie familiale, vie professionnelle. Les progrès reposent bien entendu aussi sur une meilleure organisation des soins, et ça a été voulu par les autorités de santé, la Haute Autorité de Santé ainsi que l'INCa, l'Institut National du Cancer, avec une déclinaison qui se fait au niveau régional, interrégional et national. Et vous voyez qu'au niveau régional, eh bien, l'INCa, l'Institut National du Cancer, a mis en place des centres de compétences en oncologie pédiatrique. Donc en France, il y a 33 centres de compétences en oncologie pédiatrique, qui sont situés généralement dans les CHU, mais qui peuvent être aussi localisés dans des centres anticancéreux. Ce sont des unités pédiatriques spécialisées, et Notre collègue nous décrira tout à l'heure un petit peu les modes de fonctionnement et l'organisation de notre unité, hein, avec au sein de ces unités spécialisées eh bien, un certain nombre de procédures, notamment le dispositif d'annonce, hein, l'annonce du diagnostic à l'enfant et à sa famille, hein, et puis tout ce qui tourne autour aussi du parcours personnalisé de soins, hein, qui est l'explication du traitement, le suivi, les différents examens complémentaires et les différentes possibilités de traitement en fonction des réponses au traitement. Alors, au niveau régional, bien entendu, figure aussi la mise en place d'un réseau régional de soins. C'est un point important parce que la prise en charge ne se fait pas uniquement au niveau du CHU, il se fait aussi proche du domicile, le plus proche possible. Et c'est vrai qu'avec cette dimension régionale, nous recevons des patients qui viennent de l'ensemble de la région Poitou-Charentes. Hein. On travaille avec les services de pédiatrie de La Rochelle, de Rochefort, de Saintes, d'Angoulême en particulier. Hein. Et donc, il y a, et on vous en dira quelques mots tout à l'heure, eh bien, des prises en charge partagées avec des chimiothérapies qui peuvent être effectuées à proximité du domicile de ces enfants. Au niveau interrégional, optimisation de l'organisation de soins, qui est basé sur des réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'actuellement, ce n'est pas un médecin, comme pour l'adulte, hein, comme pour chez l'adulte, qui va décider d'un traitement. Il y a des propositions qui sont faites par l'équipe médicale locale et qui seront validées après discussion en interrégion avec l'ensemble de nos collègues de tout le Grand Ouest de la France. Donc, ce qui est vraiment un point important qui a été voulu par les autorités de santé, et c'est vrai que dans l'interrégion du Grand Ouest, on a été un petit peu pionnier dans la mise en place de cette RCP pluridisciplinaire, hein, qui est vraiment un point très important, qui permet bien entendu de valider les stratégies thérapeutiques et puis surtout d'avoir une plus grande transparence vis-à-vis des enfants et de leurs familles. Au niveau régional, au niveau interrégional, sont organisées des filières de soins et c'est important en termes d'expérience de centraliser dans certains centres, des techniques qui sont quand même pas forcément très faciles à mettre en place, qui nécessitent parfois de très larges équipes, et je pense en particulier aux greffes et aux greffes dans le cadre des leucémies, hein, et des leucémies de l'enfant en particulier. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'interrégion, nous avons essentiellement deux centres qui sont habilités à faire les greffes. La même chose pour la chirurgie des tumeurs, hein, les tumeurs osseuses et des tumeurs du cerveau. Donc c'est des choses qui sont quand même malgré tout très particulières, hein, mais qui nécessitent bien entendu des organisations interrégionales pour une prise en charge optimale. Enfin, au niveau national, optimisation de l'organisation des soins avec, j'ai mis quelques exemples, mais on pourra en citer d'autres tout à l'heure, prise en charge coordonnée des tumeurs rares. Bon, je vous ai expliqué que les tumeurs de l'enfant, c'était des phénomènes qui étaient rares, mais malgré tout, dans ces tumeurs rares, on a des tumeurs particulièrement rares, avec un ou deux cas par an en France. Hein, et donc, il y a une nécessité de mettre en commun la connaissance, non seulement nationale, mais aussi internationale, de façon à pouvoir en apprendre un petit peu mieux sur ces tumeurs rares et d'autre part d'échanger pour optimiser la prise en charge et surtout la guérison de ces patients. Et un certain nombre de techniques spécifiques sont référencées au niveau national et en particulier les techniques de radiothérapie comme la protonthérapie qui va permettre avec une technique bien particulière d'irradier véritablement le site tumoral et de léser à minima les tumeurs, les tissus qui sont autour. Donc ce sont voyez, des organisations au niveau régional, interrégional, national qui permettent eh bien, de progresser dans la prise en charge de ces enfants. Donc je vais m'arrêter là et je pense que nous aurons l'occasion tout à l'heure de discuter d'un certain nombre de ces points avec vous hein, pour pouvoir nous donner un petit peu notre expérience et puis de parler éventuellement de projets en termes de traitement. Je passe donc la parole au professeur Levar.
Bonsoir à tous. Écoutez, merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler un petit peu de la prise en charge chirurgicale des cancers de l'enfant. Concernant les nouveautés, je ne vais pas vous faire la promotion de matériel extraordinaire, de bistouri qui sait tout faire tout seul, de choses comme ça, parce que ce n'est pas tellement là que les progrès ont été réalisés, mais les progrès ont été réalisés essentiellement dans l'organisation de la prise en charge des cancers de l'enfant et la définition de la place des différents intervenants. Et c'est ça que je vais essayer d'illustrer avec vous. La première notion essentielle, c'est que la prise en charge d'un cancer de l'enfant, c'est un travail d'équipe qui débute avec le médecin généraliste ou le pédiatre et qui va impliquer beaucoup de professionnels, les oncologues, les radiologues, les médecins de médecine nucléaire, les biologistes, les radiothérapeutes, les généticiens, psychologues, les équipes paramédicales, bien sûr aussi les parents, sans compter tous les soins de support. On pourrait allonger cette liste de façon très très importante. Donc ce travail d'équipe, il est absolument essentiel à connaître. Et le chirurgien va donc s'intégrer à cette équipe. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne les hémopathies malignes ou les lymphomes, il est assez peu concerné, peut-être dans quelques lymphomes à la rigueur. Le rôle du chirurgien, il va surtout être dans la prise en charge des tumeurs solides. Et le premier principe qu'il faut défendre, c'est qu'il faut éviter tout geste ou toute attitude qui pourrait aggraver le pronostic, être nuisible à l'enfant, ne pas faire perdre de chance à l'enfant qui vient pour un cancer ou une suspicion de cancer. Alors, ça paraît un petit peu bêta de dire ça, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est absolument essentiel et beaucoup de choses vont se jouer tout de suite au début, au diagnostic. Donc, on va voir un petit peu comment se passe l'étape diagnostique. Ensuite, qu'est-ce qui définit les critères d'opérabilité, l'intervention, en quoi ça consiste, quels sont les objectifs, les risques, et puis voilà. Donc le diagnostic, il est souvent fait devant une masse, c'est souvent une découverte fortuite. Et ce qui est particulier aux tumeurs de l'enfant, ce sont des tumeurs souvent à croissance très rapide. Et voilà, les parents viennent, ils disent, ben voilà, on a remarqué, il y a une énorme masse là au niveau du ventre, alors qu'il n'y avait rien hier soir. Donc c'est assez particulier. Et ces tumeurs, elles sont volontiers fragiles, volumineuses. Et donc déjà, dès l'examen clinique, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour éviter de les rompre. Et c'est dire aussi qu'il faut examiner les enfants tout le temps. Quand on les voit pour un vaccin, pour une rhino, il ne faut pas hésiter à les examiner dans leur globalité parce que c'est parfois l'occasion de découvrir une tumeur qui n'a pas encore parlé. Les autres signes d'appel clinique là, de la tumeur, ben, ce sont les signes liés au développement de la tumeur. Donc ça peut être toutes sortes de choses, c'est extrêmement varié puisqu'on a toutes les localisations possibles. Et j'attire l'attention sur les douleurs, les tableaux chirurgicaux aigus. Et ça, on a appris ça maintenant, on connaît bien ça. Parfois, la présentation est assez dramatique sur le plan clinique. L'enfant vient pour un syndrome d'hémorragie interne, un tableau d'occlusion, de péritonite. Et il faut absolument bien vérifier que ce tableau n'est pas en rapport avec une tumeur. Et si c'est le cas, éviter autant que faire se peut d'opérer l'enfant parce qu'on risque d'aggraver la situation plutôt que de sauver l'enfant, ce qui paraît un peu paradoxal. Bon, sauf bien sûr dans le cas de péritonite, mais surtout dans le cas d'hémorragie interne, une tumeur qui se rompt, il faut éviter de l'opérer si on peut. Les autres signes d'appel clinique, ce sont des signes qui sont en rapport avec des substances sécrétées par la tumeur, et je passe assez rapidement là-dessus, ou encore des signes de localisation secondaire des métastases, je passe aussi rapidement là-dessus. J'insiste sur deux points, parce que ça aussi, ça fait partie des choses un peu nouvelles dans la prise en charge des cancers de l'enfant. Ce sont les tumeurs de diagnostic prénatal. Vous savez que le diagnostic prénatal a pris une importance considérable avec les trois échographies de la grossesse. Eh bien, aujourd'hui, il arrive qu'on découvre une tumeur chez un fœtus, ce qui va donc poser des problèmes diagnostiques, de prise en charge. Parfois, ces tumeurs peuvent être responsables de détresse fœtales ou vont nécessiter des précautions particulières à la naissance. Et donc là, le chirurgien va être directement concerné par ça. L'autre point nouveau concernant la découverte de ces tumeurs, c'est la survenue des tumeurs sur des terrains à risque, ce qu'on appelle les terrains de prédisposition aux tumeurs, qui sont donc des prédispositions génétiques. Alors parfois, il y a un contexte familial hein, de tumeurs connues, il y a des cas index dans la famille, et le diagnostic va donc être fait dans le cadre d'une surveillance de ces enfants dans un contexte familial très précis. Parfois, il n'y a pas de contexte familial, mais il y a un syndrome malformatif qui va être présent à la naissance, dont on sait qu'il peut être associé à l'émergence d'une tumeur à une échéance variable de quelques mois ou de quelques années. Et ces enfants donc, vont devoir aussi bénéficier de plans de surveillance tout à fait particuliers. Donc le diagnostic il va être suspecté sur la clinique, il va être confirmé par la radiologie, la biologie, il y a un certain nombre de tumeurs qui sécrètent des substances qui vont nous aider à faire le diagnostic, par l'histologie. L'histologie, c'est la possibilité qu'on a d'analyser la tumeur en faisant un petit prélèvement, ce qu'on appelle la biopsie, et puis ensuite des analyses génétiques, biologie moléculaire et génétique. En matière de chirurgie tumorale, il faut absolument éviter les chirurgies exploratrices. Quand on voit un enfant qui a une tumeur, on dit tiens, on va aller comme ça prendre un morceau, on va lui ouvrir le ventre ou le thorax pour aller prendre un morceau de cette tumeur. Non, il faut surtout éviter ça parce que ce n'est pas comme ça qu'on procède. Et là, on peut aggraver considérablement le pronostic de ce patient, en dehors des urgences, bien sûr. Quand on doit faire une biopsie, la biopsie chirurgicale est toujours faite en dernier recours. Elle peut être totalement contre-indiquée dans certaines tumeurs. Et elle doit répondre à des règles strictes, qu'elle doit toujours être discutée au préalable, en amont, en pluridisciplinaire. Et il faut que le geste soit parfaitement adapté au type de la tumeur, que le prélèvement soit de bonne qualité et surtout que ce prélèvement soit correctement managé, parce qu'on va l'envoyer dans différents laboratoires et si on n'a pas bien tout organisé avant, on risque de faire un prélèvement pour rien et de perdre beaucoup d'informations. Une fois que le diagnostic est fait, ce qui va être important, c'est de déterminer l'extension de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur localisée, à développement loco-régional ou une tumeur métastatique? Et ce que vont nous demander les oncologues, c'est est-ce que cette tumeur est opérable? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la tumeur opérable? On pourrait dire qu'on peut toutes les opérer. Le problème, c'est de les opérer sans être délétère, sans prendre de risque vital. Vouloir enlever une tumeur, ça peut comporter un risque vital, et sans que cette chirurgie entraîne des séquelles qui rendraient la vie de ces enfants vraiment difficile après. Alors, une fois qu'on a bien fait ce diagnostic, on va discuter à l'occasion de ces réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont essentielles, la stratégie thérapeutique. Pour traiter ces tumeurs, on a différents moyens. On a la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie. Qu'est-ce qu'on va utiliser en premier? Quelles associations on va faire? Dans quelle chronologie? C'est tout cela qu'il faut absolument discuter dès le départ. Le but étant de guérir l'enfant avec le minimum de séquelles possibles. Donc, quand un chirurgien voit une tumeur, la première chose qu'il fait, ce n'est pas d'aller l'opérer, c'est d'aller discuter avec ses collègues pour voir un petit peu quelle stratégie on va retenir. Cette stratégie, donc, elle va dépendre de la nature de la tumeur, de l'âge de l'enfant, de l'opérabilité qui aura été évaluée sur l'imagerie, de son extension, de la chimio et de la radiosensibilité présumée en fonction du diagnostic. Et ces traitements, comme le disait tout à l'heure le professeur Millot, s'inscrivent pour la quasi-totalité dans des protocoles nationaux ou internationaux qui sont la seule façon de faire progresser les connaissances qu'on a sur le traitement de ces tumeurs. Et c'est grâce à ces protocoles nationaux et internationaux qu'on a aujourd'hui des taux de guérison tels qu'ils vous ont été présentés tout à l'heure par le professeur Millot. Donc j'insiste beaucoup sur ces RCP, donc ces réunions de concertation pluridisciplinaire. On en a deux par semaine, il y en a une le lundi soir, une le jeudi soir. Ce sont des RCP qui sont en visioconférence avec tous les hôpitaux universitaires de la région Hugo, les hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Vous avez Tours, vous avez Rennes, vous avez Brest, vous avez Nantes, vous avez Angers, vous avez même Caen. Et donc toutes les semaines, au diagnostic, et ensuite, autant de fois qu'il le faudra dans l'évolution de ce patient, les dossiers sont discutés entre professionnels de tous horizons de façon à définir les meilleures stratégies diagnostiques et thérapeutiques pour ces enfants. Et ça, c'est vraiment un progrès absolument considérable. Alors, à un moment donné, vient le temps de la chirurgie dans ce programme thérapeutique. Cette chirurgie, elle survient toujours dans une chronologie précise qui aura été prédéterminée. Elle peut être modifiée au cours de l'évolution en fonction de la réponse de la tumeur à la chimiothérapie, par exemple. Mais elle est toujours dans une chronologie précise. Elle doit répondre à un objectif précis, c'est-à-dire que le chirurgien et les oncologues vont passer un contrat. Qu'est-ce que les oncologues attendent du chirurgien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout enlever? Est-ce qu'il faut enlever 90%? Est-ce que, voilà, donc ça doit être clairement défini. Et puis, cette chirurgie, elle répond à des protocoles très précis. Il y a une façon de faire qui est parfaitement codifiée et qui doit être respectée. Bon, la chirurgie des métastases, c'est un autre aspect, je vais passer là-dessus. À côté de l'exercice chirurgical, proprement dite, le chirurgien peut être sollicité pour différentes choses, les accès veineux, la pose notamment de cathéters, de chambres implantables, la pose d'une gastrostomie, c'est-à-dire une sonde dans l'estomac à travers la paroi abdominale pour nourrir ses enfants, parce que certaines chimiothérapies ont une répercussion très importante sur les possibilités de s'alimenter de ses enfants, et donc on les aide par cette gastrostomie. Dans les éléments nouveaux importants aussi, c'est tout ce qui concerne la préservation de la fertilité de ces enfants. On vous l'a dit, on traite des jeunes enfants, parfois des adolescents, et ces traitements, soit chirurgicaux, soit la chimiothérapie, soit la radiothérapie, peuvent entraîner des lésions irréversibles, définitives sur les gonades, les ovaires, les testicules. Eh bien, quand on sait qu'on va s'engager dans un traitement de ce type-là, on doit tout faire pour que la préservation, pour que la fertilité de ces enfants puisse être préservée pour l'avenir. Donc il y a des techniques chirurgicales de transposition de l'ovaire. Si on doit irradier, par exemple, le petit bassin dans lequel il y a les ovaires, on va les transposer. On peut faire des prélèvements d'ovaires si on crée une chimiothérapie qui va détruire les cellules ovariennes. On peut même le faire sur les testicules chez le garçon, mais on ne sait pas très bien encore ce qu'on va faire de ces biopsies, de ces prélèvements de testicules. Par contre, pour la fille, on sait, on a de bons résultats. Voilà, on peut protéger des organes contre l'irradiation en posant des ballons intra-abdominales qui vont écarter les organes qu'on veut protéger du champ d'irradiation. Et puis dans quelques cas, malheureusement, on va pouvoir faire des chirurgies palliatives ou bien des chirurgies des séquelles. Indiscutablement, quand on prend en charge un enfant, on souhaite qu'il guérisse, mais parfois ça sera au prix de séquelles. Voilà, ça peut être la pose d'une prothèse testiculaire chez un garçon à qui on aura enlevé un testicule, ça peut être une prothèse de membre chez un enfant qu'on aura amputé pour une tumeur osseuse, etc. Alors, vous voyez que finalement, en conclusion, les progrès principaux, encore une fois, tiennent à l'organisation des soins. Et je pense qu'on est obligé d'évoquer l'impact des plans cancers successifs qu'on connaît depuis 2003, puisque le premier, c'était 2003-2007. Il y en a eu un deuxième, 2009-2013, que j'ai souligné et mis en gras, parce qu'il y a un chapitre qui concerne vraiment la pédiatrie, les cancers de l'enfant dans ce plan cancer, qui est très important. Et puis le plan cancer en cours, là, 2014-2009. Donc ça, c'était la volonté des pouvoirs publics d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients atteints de cancer. Et donc, il y avait ce chapitre sur les enfants dans le deuxième plan. Il y a eu la création de l'INCa en 2005. Frédéric Millot vous en a parlé tout à l'heure. Ça a été aussi un élément excessivement important, la création de cette agence de santé qui a un petit peu réglementé, codifié les prises en charge de ces patients en définissant donc des centres de compétences, etc., etc. Au niveau régional ou interrégional, issu de ces plans cancers et de l'INCa, il y a une structure qui s'est créée qui s'appelle la structure GOS, c'est Grand Ouest Cancer de l'Enfant, qui regroupe tous les CHU de l'interrégion Hugo plus le CHU de Caen, et qui est une structure qui permet donc de structurer l'offre de soins et de coordonner aussi la recherche dans notre interrégion. C'est au sein de cette structure GOS que nous réalisons les réunions de concertation pluridisciplinaire. Réseau et filières de soins, Frédéric Millot en a parlé, je terminerai par la formation et la recherche, qui sont aussi des points très très importants promus par les sociétés savantes, notamment la Société française des cancers de l'enfant. Et concernant la formation des chirurgiens, il est souhaité maintenant que les chirurgiens qui prennent en charge ces tumeurs de l'enfant aient une formation générale en oncologie pédiatrique et on leur demande donc de suivre l'enseignement du diplôme interuniversitaire d'oncologie pédiatrique qui ne va pas traiter uniquement de chirurgie mais aussi de chimiothérapie, de radiothérapie, de façon à ce que les chirurgiens qui interviennent dans la prise en charge de ces enfants soient parfaitement au fait de toutes les autres techniques de traitement des cancers de l'enfant. Voilà, je vous remercie.
Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler des progrès dans la prise en charge des enfants, plus du côté paramédical, forcément, et plus par rapport à ce qu'on a fait, nous, dans le service. Donc tout d'abord, par rapport à l'accueil, notre service a été restructuré. Quand j'ai commencé auparavant, les chambres qui accueillaient les enfants en hospitalisation complète, c'était des chambres doubles. Aujourd'hui, ils disposent de chambres seules, équipées toutes d'un purificateur d'air et d'un canapé-lit pour que les parents puissent rester dormir. Il dispose aussi d'une salle de jeu et d'une salle de repas pour les familles. Et puis en parallèle, il y a l'hôpital de jour. Donc on dispose de 3 lits. Et c'est pareil, on a aussi ce qu'il faut pour les occuper sur une journée. Je vous ai mis une petite photo du Cool Plasmer, donc le purificateur d'air, la salle de jeu des enfants. Deuxième amélioration dans l'accueil des enfants, c'est la consultation d'annonce infirmière. Donc elle fait partie du plan cancer dont vous a parlé le professeur tout à l'heure. Donc elle a été mise dans le service en 2011-2012. On a un temps qui a réellement été aménagé pour les infirmières, donc les infirmières sont détachées des soins pendant qu'elles font ces consultations. Ça permet une meilleure connaissance des familles et surtout par le biais des travaux qu'on a faits et d'une feuille de transmission, d'avoir un suivi et surtout une accessibilité pour tous les professionnels de santé qui vont intervenir auprès des enfants. Les progrès dans la prise en charge de la douleur, d'abord dans l'évaluation. Le service a travaillé sur 2 échelles différentes pour harmoniser les pratiques de l'évaluation. Donc une échelle qui s'appelle l'échelle Evandol pour les enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans. Et la deuxième échelle dont on sert, c'est l'échelle visuelle analogique pour les enfants qui ont plus de 5 ans. Voilà, pour les techniques pharmacologiques, donc tout ce qu'on donne en traitement médical pour la douleur, on a des protocoles qui sont écrits avec des produits bien spécifiques, donc la crème EMLA qu'on sert aussi en pédiatrie générale, donc qui est une crème anesthésiante, le gaz hilarant, le MEOPA, donc qui est un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène, et la morphine, qui est un analgésique puissant et qui offre surtout une sédation légère et agit sur l'anxiété juste avant les examens. Voilà, donc en haut à gauche, vous avez le patch de crème EMLA, le Calinox, dont on sert pour les examens particuliers. Une technique qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, en collaboration avec le CHU de Brest, c'est l'utilisation de la kétamine. Donc c'est un produit qui permet en fait une sédation très efficace et ça évite surtout une anesthésie générale. L'enfant ne garde aucun souvenir de ce qui s'est passé durant le soin. Voilà. Les méthodes non pharmacologiques, donc les méthodes qu'on utilise mais sans médicaments. Donc une qu'on utilise tous les jours, c'est la distraction. Donc c'est la méthode la plus simple. Elle ne nécessite pas de formation et elle permet à l'enfant de ne pas se focaliser sur ce qui se passe dans la chambre, le soin qu'on est en train de lui faire, et surtout de faire abstraction d'une partie de son corps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On chante des chansons, on raconte des histoires, on fait des bulles. Voilà. Une méthode sur laquelle on se penche de plus en plus, c'est l'hypnose. C'est une technique pour laquelle il faut une formation. Donc ça se définit comme la mise dans un état de veille intense, à l'instar du sommeil profond. Donc chaque année, plusieurs professionnels du CHU sont formés. Un exemple de soins sous hypnose, on installe le patient. La personne qui s'occupe de faire l'hypnose choisit un thème avec l'enfant, donc, par exemple une partie de tennis. Pendant ce temps-là, les autres professionnels préparent le soin. La personne s'occupant de l'hypnose donne l'accord pour le début du soin. Et ensuite, la séance d'hypnose ne se termine qu'une fois le soin terminé. Les progrès dans la prise en charge psychosociale. Donc dans le service, on a une psychologue qui est présente plusieurs demi-journées par semaine et qui est mise en contact avec l'enfant dès son arrivée. Elle suit l'enfant, voire tout le reste de la famille, tout au long du suivi à l'hôpital. Pour la prise en charge sociale, une assistante sociale donc, s'occupe de toutes les prestations et allocations auxquelles ont droit les parents. Elle les met en relation avec les associations. Et voilà. En ce qui concerne la scolarité, tous les enfants hospitalisés dans le service bénéficient de la présence d'une enseignante toute la semaine dans le service. Donc, ils ont l'école à l'hôpital. Elle fait le lien avec l'école d'origine et elle s'occupe aussi de tout ce qui est les examens comme le bac, le brevet. Voilà. Pour la prise en charge socio-éducative, donc on a l'espace ado. Donc, qui vient relayer les parents ou alors qui accueille les enfants toute la journée. La ludothèque également pour les enfants un peu plus jeunes. Les clowns qui passent tous les mercredis. Des conteuses qui viennent deux après-midi par semaine pour raconter des histoires. Et des bénévoles aussi qui sont présents tous les jours pour prendre le relais des parents. Le dernier axe, c'est les progrès dans la prise en charge de proximité. Donc on essaie de former les professionnels de santé des hôpitaux de proximité afin que les enfants puissent avoir les soins, les chimiothérapies simples et les transfusions au plus près de leur domicile. Et on forme également le personnel libéral et on a aussi des réunions d'échange avec les autres centres.
Merci à vous trois. Vous avez été très complet sur le sujet. Donc vous allez pouvoir poser vos questions maintenant, leur poser directement vos questions. Je vous rappelle, essayez de généraliser votre question pour qu'ils puissent y répondre sans avoir de dossier évidemment sous les yeux. Est-ce que tout de suite il y a une question, déjà premièrement? Alors vous pouvez les écrire hein, si vous ne voulez pas les donner dans le micro, il n'y a pas de souci. D'abord, on n'a pas parlé, alors il n'y a pas de médecin généraliste ce soir et on s'en excuse. Le médecin qui était prévu n'a eu un empêchement de dernière minute. Quel lien vous avez instauré avec les généralistes parce que ce sont souvent les premiers à être au courant ou à déceler un éventuel problème chez l'enfant, le pédiatre par exemple, ou le médecin généraliste?
Alors, on essaie de les informer effectivement assez rapidement pour déjà les conforter dans leur diagnostic, parce que souvent c'est un diagnostic qui est évoqué par les médecins généralistes ou les pédiatres. Et puis, on essaie de les mettre au courant assez rapidement, puisque le but c'est de rentrer à la maison. Hein, donc, il faut des relais, bien entendu, locaux. Donc, il y a une information qui se fait de façon à préparer au mieux, dès que possible, le retour au domicile. Alors, c'est vrai que. On est dans le cadre d'une médecine très spécialisée, donc c'est vrai que l'intervention du généraliste ou du pédiatre est malgré tout un peu limitée, mais a son rôle, bien entendu, à distance des situations aiguës et des prises en charge hospitalières.
Vous avez évoqué la durée d'hospitalisation. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez également pour qu'elle soit la plus courte possible, pour que l'enfant puisse très rapidement retrouver le milieu familial et la maison?
Alors effectivement, il y a des stratégies, on parlait d'essais thérapeutiques hein, tout à l'heure, pour essayer d'alléger un certain nombre de traitements qui étaient jusqu'à présent très lourds, pour pouvoir favoriser donc une intensification moins importante des traitements et de limiter la durée. Donc j'avais pris cet exemple des leucémies, effectivement. Bon, c'est pas forcément 3 ans à l'hôpital, hein, mais en termes de durée, enfin de retour à l'hôpital, il y a quand même malgré tout, même s'il y a des traitements dits d'entretien à distance des traitements intensifs, il faut quand même revenir à l'hôpital. Et c'est vrai que pour les enfants, pour les familles, ça reste toujours très, très lourd. Donc on a intérêt, effectivement, grâce aux essais thérapeutiques, de pouvoir proposer des stratégies qui sont moins lourdes, avec des thérapies qui sont moins longues. On le connaît pour certains lymphomes, par exemple, très agressifs. On faisait avant 4 cures d'entretien, on n'en fait plus qu'une actuellement. Donc on a gagné 3 mois pour des traitements extrêmement intensifs, ce qui est au bénéfice des enfants et de leurs familles.
Complètement. Des questions? J'arrive près de vous. J'ai passé par là.
Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. J'aurais 2 petites questions. Une concernant la radiothérapie et les lésions provoquées par la radiothérapie. De savoir quelle est la reconstitution possible selon les organes. C'est une question que je pose. Et aussi, est-ce qu'il y a des incidences des traitements sur le développement de l'enfant sur sa croissance, sur les apoptoses programmées, naturelles, etc.
Alors le problème de la radiothérapie est un problème bien entendu majeur, hein, puisque un enfant est en croissance, donc les organes sont très sensibles à cette radiothérapie. Alors il faut que vous sachiez que par rapport à l'adulte, on fait quand même beaucoup moins de radiothérapie chez l'enfant, hein, déjà pour ses problèmes toxiques, et puis nous avons appris à remplacer la radiothérapie par la chimiothérapie. Je prendrai l'exemple des leucémies qui autrefois étaient tous irradiés au niveau du crâne hein, pour empêcher que la maladie se développe à cet endroit-là. Il y a eu des essais randomisés qui ont été faits. On a prouvé que la chimiothérapie haute dose permettait d'éviter cette radiothérapie. Ce qui fait que, pour rejoindre un peu votre deuxième question, on a pu atténuer très nettement un certain nombre de conséquences, notamment quand on irradie le crâne, il y a bien entendu l'hormone de croissance hein, qui est là. Et donc, autrefois, un certain nombre de ces enfants avaient leur traitement de leucémie, et puis pendant des années après, avait un traitement par hormone de croissance pour substituer. Donc on a réussi, grâce à ces essais randomisés, à montrer qu'on pouvait omettre cette radiothérapie et de traiter avec de la chimiothérapie chez ces enfants. Donc les conséquences, alors on irradie pas à n'importe quel prix, c'est vrai que pour tuer les cellules cancéreuses, il faut malgré tout des hautes doses de radiothérapie. Et il y a un certain nombre de précautions qui sont prises. Et on parlait tout à l'heure de recommandations. Il y a des groupes d'experts radiothérapeutes pédiatres qui eh bien font des protocoles, font des recommandations pour éviter les effets délétères de ces traitements.
Attendez, j'arrive avec le micro.
Et le niveau de reconstitution possible sur des cellules lésées ou des groupes cellulaires, bien sûr, sur certains organes. Et est-ce qu'il y a un espoir de reconstitution?
Les doses qui sont utilisées permettent la survie, malgré tout, de tissus normaux. Hein. Donc les conséquences, on a tout intérêt, je le citais tout à l'heure avec la protonthérapie, d'avoir une radiothérapie très dirigée, très ciblée sur la zone tumorale. C'est vrai que les tissus à côté peuvent être brûlés. On le voit notamment au niveau cutané avec des irradiations au niveau du dos sur le rachis en particulier, mais avec une réversion qui se fait malgré tout. Hein, une réversion qui se fait.
Pour compléter la question, bon, je n'avais pas voulu faire trop de technique là, dans mon topo, mais on peut aussi dans cette situation transformer la radiothérapie externe par une radiothérapie interne en posant des fils de radium dans le champ opératoire de certaines tumeurs, ou même parfois de patients qu'on ne va même pas opérer, mais on va pouvoir poser des fils de radium sur certains types de tumeurs qui vont avoir une très bonne efficacité en termes de radiothérapie sans avoir les effets secondaires néfastes sur les organes de voisinage. Donc ça fait partie des progrès techniques aussi de la radiothérapie qu'on a pour certaines tumeurs.
Oui, sur l'ensemble des traitements, de toute façon, j'imagine qu'il y a aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant une nette évolution de ces produits qui sont moins agressifs, etc. D'autres questions? Oui, j'arrive.
Bonsoir. J'ai une question pour le professeur Levard, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous parliez des prélèvements chez les jeunes filles concernant les ovaires. Je voulais savoir à quel moment vous pouvez définir si un prélèvement sera fait ou est-ce que c'est en fonction du dosage du traitement et est-ce que c'est discuté en concertation avec les autres professionnels de ce type de pathologie.
Alors, pour on connaît les chimiothérapies qui sont toxiques pour les cellules germinales, donc c'est en fonction du choix de cette chimiothérapie qu'on va décider de faire un prélèvement ovarien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces prélèvements et ces conservations en fait d'ovaires ne peuvent pas être faits partout. Hein, donc il y a certains centres qui sont équipés, habilités à le faire. Et donc c'est un choix qui est fait donc en début de stratégie. C'est pour ça que ça fait partie des choses qu'on réfléchit en concertation pluridisciplinaire. Et quand on sait que le traitement qui va être décidé va être toxique pour les cellules germinales, en particulier chez la fille, parce que chez le garçon, on peut faire des biopsies, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire après. Donc pour la fille, par contre, on sait ce qu'on en fait. Donc on détermine cela en début de traitement et on le fait avant de commencer la chimiothérapie.
Il n'y a pas un âge particulier défini pour faire ce prélèvement, justement?
Non, il n'y a pas d'âge particulièrement défini. À partir du moment où on a une chimiothérapie pour laquelle on sait qu'il y a un risque de stérilité, effectivement, on fait des prélèvements d'ovaires, hein, qui peut être le prélèvement de l'ovaire complète ou la corticale de l'ovaire, une partie de l'ovaire, partie superficielle où sont les follicules. Cette préservation de fertilité est quelque chose d'extrêmement important qui a pu évoluer au cours du temps. Et qui est proposé systématiquement. Alors, ce n'est pas parce que dans un centre, on n'a pas un sécos, puisque c'est le sécos, hein, les centres spécialisés. On envoie les patients, bien entendu, dans les centres spécialisés, les sécos, pour pouvoir faire ces prélèvements avec les équipes chirurgicales. Donc, il y a un réseau national pour ces prélèvements qui est important. L'ovaire, en général, c'est vrai, un peu plus résistant que le testicule. Néanmoins, nous n'hésitons pas effectivement à proposer ce genre de stratégie avant les intensifications thérapeutiques, en particulier les greffes. C'est essentiellement dans les greffes qu'on propose ça, que ce soit des autogreffes, certaines autogreffes, ou les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques pour les leucémies.
Je suis près de vous, donc allez-y.
Tout à l'heure, vous parliez justement de l'importance des parents, de l'entourage, pour ce type de pathologie. Et il y a une question qui n'a pas été parlée et qui est intéressante, je trouve, c'est l'hospitalisation à domicile aussi. Donc, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est exprès ? Est-ce que c'est...
Bon, c'est vrai qu'on a recours très facilement à l'hospitalisation à domicile et... À Poitiers, nous avons, lorsque l'HAD s'est créé, nous avons entré dans cette structure le premier patient. Hein, c'était un enfant qui a pu bénéficier de cette hospitalisation à domicile. C'est un élément qui est extrêmement important. C'est parfois assez lourd aussi. Hein, et c'est vrai que pour les équipes, ça nécessite une attention de tous les instants. Et c'est quelque chose qui se développe. Alors on est un peu limité malgré tout avec la distance, hein, puisque les équipes d'HAD, même si elles ont une vocation régionale, on sont un peu limitées sur le plan géographique. Mais nous avons la possibilité actuellement, grâce à des prestataires de services, de faire un petit peu l'équivalent de l'HAD pour d'autres actes dans d'autres zones de la région. Donc l'hospitalisation à domicile représente un élément important pour... Eh bien, pour le moral des patients ou des patientes, parce que bon, ils sont proches de chez eux et parce que c'est leur environnement. Et c'est vrai que l'hôpital reste toujours quelque chose de difficile à vivre pour les enfants et les familles.
On me demande s'il y a d'autres méthodes parallèles. On a évoqué tout à l'heure avec Sonia Azakani l'hypnose. S'il y a d'autres méthodes parallèles qui peuvent être utilisées, qui sont examinées ou exploitées. D'autres techniques, en fait.
Alors, moi, j'ai parlé de la prise en charge de la douleur, surtout.
Par rapport à la douleur.
Par rapport à la douleur ?
Entre autres.
Je sais qu'on fait aussi des exercices de respiration pour certains soins. Donc la distraction, ça, on le fait tous les jours. Pas forcément.
D'accord.
Les massages, oui, c'est vrai. On a une masseuse qui intervient, en plus, une fois par mois, dans le service, et avec laquelle on peut faire des soins, effectivement. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une augmentation des cancers chez l'enfant depuis quelques années, ou est-ce que le chiffre est stable ?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre puisqu'il faut avoir un recul suffisant, hein, de plusieurs décennies pour pouvoir voir si effectivement il y a une modification. Les registres français sont assez récents, une dizaine, quinzaine d'années, et c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir donner une réponse en tout cas sur le plan français. Néanmoins, il y a quand même des registres, hein, des cancers qui existent dans la plupart des régions, de façon à voir si effectivement il n'y a pas des pics ou des augmentations brutales de telle ou telle pathologie. On se base peut-être plus sur les registres nord-américains qui sont un peu plus anciens et qui ne montrent pas forcément d'augmentation du taux global de cancer, en sachant qu'il peut y avoir des cancers qui peuvent augmenter un petit peu et d'autres qui peuvent diminuer un petit peu.
Vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a un nombre plus important de personnel hospitalier dans les services pédiatriques que dans un service, dans un autre service ? Parce qu'on l'a compris, le rôle de l'accueil des parents, des familles, et passer du temps aussi avec l'enfant, c'est important. Est-ce que du coup, il y a des moyens supplémentaires ? Je rentre dans un côté un peu plus technique, mais qui peut intéresser également, parce que c'est vrai que, on l'a compris, hein, vous, tous les trois, vous avez eu ce point commun de nous parler de l'accueil des familles et du bien-être de l'enfant quand il est hospitalisé.
Effectivement, c'est des équipes qui sont renforcées, mais qui sont peut-être plus formées, en fin de compte, hein, parce que c'est surtout sur la formation, sur la douleur, sur la prise en charge, l'annonce du diagnostic, etc. Donc, effectivement, bon, il y a du temps qui est prévu. Le plan cancer avait prévu, ont prévu aussi du temps dédié à ces prises en charge.
Est-ce qu'il y a aussi des progrès techniques, justement, plus sur... Allez, je pense cet exemple qui me vient en tête, les enfants souvent ont peur des piqûres, etc. Est-ce qu'il y a des progrès, justement, dans toute cette amélioration, ce bien-être, pour que l'enfant ait moins de douleur, moins d'appréhension ? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des recherches, en fait ?
Oui,
j'ai cité que la piqûre, mais il y a peut-être d'autres choses.
Oui, la prise en charge de la douleur est un point très important. On a fait quand même beaucoup de progrès avec tout ce qui est les cathéters, hein, c'est-à-dire qu'on a évité des prises de sang itératives, des injections itératives au niveau des veines périphériques, avec la mise en place de cathéters qui permettent l'administration de tous les traitements. Donc c'est vrai qu'on a, on l'a vu. Moi, j'ai, parce que je commence à avoir un peu de recul maintenant aussi l'évolution de la prise en charge à douleur. Il y a 20 ans, l'EMLA n'existait pas. Je veux dire, cette pommade anesthésique que nos anesthésistes ramenaient d'Europe du Nord dans leur poche et qu'on utilisait tout doucement pour pouvoir éviter eh bien de l'utiliser et de ne plus en avoir. Et donc ça a été quand même tout à fait changé depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que ces prises en charge de la douleur se sont quand même nettement améliorées. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots.
Et puis quand même au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on ne faisait pas il y a quelques années, c'était tout simplement de parler. Aujourd'hui, le fait d'expliquer aux enfants ce qu'on va faire, du coup déjà ça dédramatise le soin, et il peut exprimer ses peurs et du coup on peut agir en conséquence. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des méthodes pharmacologiques, mais on se pense aussi sur des choses non pharmacologiques, donc pas de médicaments forcément, mais plus... l'hypnose, les massages, effectivement, j'y ai pas pensé tout à l'heure parce que je suis pas en hospitalisation, elle intervient en hospitalisation complète. Donc effectivement, j'ai assisté à des séances avec cette masseuse, ça marchait très bien, mais déjà juste à la base, le fait de parler de la douleur, de dire qu'on a le droit d'avoir peur, déjà ça a beaucoup changé les choses. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des protocoles établis et de pouvoir les modifier en fonction des enfants, c'est un confort.
Il y a un vrai dialogue qui s'effectue, qui s'établit entre l'enfant et l'infirmière ou le médecin, même pour le plus petit, qui a parfois du mal à expliquer en fait sa douleur.
Alors avec d'autres méthodes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a différentes méthodes pour évaluer la douleur, donc pour aussi évaluer l'efficacité de ce qu'on fait. Mais même par des gestes simples, avec le doudou, expliquer, mettre un crayon pour expliquer qu'on va faire une aiguille, enfin une piqûre. Voilà, c'est vrai qu'on a plein de méthodes. C'est vrai que de les faire au quotidien, je me rends pas compte que finalement, voilà, les adultes connaissent pas. Voilà, mais vraiment expliquer ce qu'on fait, on le faisait pas avant. Expliquer ce qu'on fait, ça a vraiment changé les choses.
Question écrite un peu technique, mais je vous la posais quand même. Que pensez-vous de l'utilisation des champs magnétiques pulsés sur des zones hormonales, par exemple, ou des zones lésées par les radiothérapies ?
Je pense qu'il faudrait poser la question au radiothérapeute, parce qu'on n'a pas forcément l'expérience de ce genre de technique. Bon, le but, c'est de, comme je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'éviter ces techniques qui sont quand même agressives, hein, la chimiothérapie l'est, la radiothérapie l'est aussi. Donc, il y a différentes techniques aussi d'irradiation qui permettent, actuellement, je parle de la tomothérapie par exemple, qui permet d'irradier des grandes surfaces, mais en limitant les effets toxiques. Donc, on a actuellement des techniques qui se développent pour pouvoir limiter les effets secondaires de ces radiothérapies. Néanmoins, la radiothérapie reste quand même une arme thérapeutique majeure dans certaines tumeurs, en particulier les tumeurs cérébrales, puisque parfois la chirurgie ne permet pas d'enlever tout le processus tumoral et qu'il faut le compléter pour pouvoir tuer le tissu résiduel et complémenter l'action de la chimiothérapie qui parfois a du mal à passer au niveau du tissu cérébral.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. C'est vrai que vous avez été très complet sur le sujet et c'est plutôt bien d'ailleurs. Ah, j'en ai une au fond, j'arrive. Je fais beaucoup de sport dans ce rendez-vous, moi.
Bonsoir. Professeur Levard, vous parliez tout à l'heure de diagnostic de tumeur fœtale. Peut-on traiter cette tumeur fœtale avant la naissance ou pas aujourd'hui, où en est-on ?
C'est tout à fait exceptionnel. Certaines tumeurs peuvent être surveillées et leur évolution peut éventuellement déboucher sur une naissance provoquée avant terme. Quand on pense qu'il y a des possibilités thérapeutiques, si on voit par exemple que cette tumeur est responsable d'une insuffisance cardiaque chez le fœtus, c'est l'indication principale qu'on a. On peut, si on n'est pas trop loin du terme, parfois faire naître ses enfants avant le terme, de façon à intervenir avant que l'insuffisance cardiaque soit létale pour le fœtus, par exemple. Voilà, les traitements in utero des tumeurs, ça reste tout à fait exceptionnel. Ouais.
Une dernière question ?
Un sujet qu'on n'a pas...
Allez-y.
Il n'y a pas eu de question là-dessus, mais c'est vrai que vous avez vu qu'on met en place un certain nombre de choses, on fait des traitements qui sont relativement agressifs. Tout ça, bien entendu, certes pour guérir aussi l'enfant, mais pas à n'importe quel prix. Le professeur Levard l'a répété à plusieurs reprises. Le but pour nous, c'est de rendre le statut social de l'enfant, c'est-à-dire que lui permettre d'aller à l'école. Donc, vous avez vu qu'on a une classe hospitalière avec un suivi, des aménagements notamment, pour ces enfants, pour qu'ils puissent passer leurs examens à l'hôpital. On a des enfants qui passent leur brevet, qui passent leur bac aussi, dans les conditions d'hospitalisation parfois difficiles, sous un flux laminaire, sous une bulle. C'est une adaptation qui est importante. Les autres enfants qui passent leurs épreuves ont aussi un temps aménagé. Donc, tout cet aspect social qui est extrêmement important. Et puis, on a, dans le cadre du suivi à moyen terme, à long terme aussi, le but d'accompagner le plus longtemps possible ces enfants et leurs familles. À titre personnel, je suis au moins pendant 10 ans, je propose un suivi pendant 10 ans de ces enfants pour voir un petit peu comment ça se passe, pour s'assurer qu'il n'y a pas de séquelles, pour prévenir, pour essayer, lorsqu'on sait que certains traitements sont délétères, d'anticiper un petit peu sur les problèmes qui pourraient survenir et puis les accompagner. Alors on s'aperçoit que probablement il y a encore beaucoup de progrès à faire aussi là-dessus, parce que ces enfants vont devenir des adultes jeunes et des adultes matures. Donc il y a tout l'aspect professionnel aussi derrière. Et vous savez que dans la région du Grand Ouest, j'ai pu mettre en place une étude pour s'assurer qu'il n'y avait pas forcément, où il y avait, on ne sait pas encore, un retentissement du cancer dans l'enfance sur la recherche du premier emploi. C'est une étude qui me paraissait extrêmement importante à mener, puisque avec ce suivi prolongé des enfants, puis des adolescents et des adultes jeunes, on s'est aperçu que un certain nombre de jeunes avaient des difficultés dans certains domaines pour trouver un emploi. Et donc, on est actuellement dans une situation d'emploi qui n'est pas très très facile, mais c'est des points qui sont importants. Et comme je vous disais, on veut rendre ce statut social à ces enfants. On ne veut pas qu'ils aient une double peine, le cancer, et puis après, des barrages. Vous avez entendu notamment récemment cette grande mesure gouvernementale qui est le droit à l'oubli, qui est un élément qui est vraiment important. Moi, j'ai encore vu il y a quelques mois une jeune fille qui est guérie de sa maladie et qui veut, donc qui a 22-23 ans, qui veut emprunter pour acheter une maison, et ça lui pose tous les problèmes du monde.
On va repréciser, professeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le droit à l'oubli, ce que c'est exactement. Je vous laisse le faire.
En quelques mots, c'est la possibilité de pouvoir passer un petit peu sur ses antécédents médicaux et de pouvoir ne pas être pénalisé sur ce qui s'est passé antérieurement. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, qui était demandé par les associations. On n'en a pas parlé des associations, hormis notre infirmière qui l'a suggéré. Hein. Les associations ont un rôle très, très important aussi pour nous aider, pour demander au pouvoir public eh bien, un certain nombre d'améliorations. Et j'ai le souvenir d'avoir fait des démarches fut un temps pour pouvoir obtenir la possibilité qu'une maman qui a besoin d'être auprès de son enfant ne puisse pas être mise en arrêt de travail, mais avoir un véritable statut social, hein, la possibilité d'avoir une interruption dans son activité professionnelle sans que ça soit forcément mis sous l'arrêt de travail. Donc des arrêts exceptionnels, et c'est le législateur a pu mettre ça en place par la suite, et ce qui nous paraissait vraiment très important pour ces familles. Donc il y a tout cet aspect social pour lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. On a fait beaucoup de progrès, on va encore faire beaucoup de progrès sur la guérison, mais à moyen terme et à long terme. Et on parlait des séquelles de la radiothérapie aussi, hein, je veux dire, des jeunes enfants qui sont irradiés à l'âge de 4-5 ans sur l'encéphale vont avoir obligatoirement un retentissement sur leur croissance, donc hormones de croissance. Ils vont avoir un retentissement sur leur capacité intellectuelle. On a des enfants qui ont des grandes difficultés pour trouver des emplois par la suite, sans compter des séquelles physiques qui existent parfois. On a des enfants qui sont irradiés sur l'axe spinal et qui ont parfois des difficultés pour trouver un travail. Je me souviens de cette jeune fille là qui voulait manipuler dans une entreprise, qui avait un travail posté parce qu'effectivement elle avait des difficultés à pouvoir effectuer cette activité professionnelle. Donc il y a encore beaucoup de choses, et j'espère que cette étude que nous menons, qui est très originale, qui est très attendue, pour lesquels on rencontre des difficultés financières, parce que évidemment les financements ne sont pas éternels, et pour finir une étude, parfois, ça peut être un peu difficile. Nous espérons arriver sur des propositions concrètes, parce que c'est bien de faire des études, mais il faut que ça puisse apporter des choses aux enfants, aux familles, et nous espérons pouvoir apporter des solutions concrètes. On a eu des tables rondes très intéressantes avec des professionnels, et bon, il y a des choses qu'on espère pouvoir améliorer dans le cadre de ce travail.
Merci de cette belle précision. Rien d'autre à rajouter ? Eh bien, je vais vous remercier beaucoup pour vos interventions. Merci à vous aussi, évidemment, d'être venu aujourd'hui. On va remercier l'équipe technique, le public, l'Espace Mendès France et le CHU. Je rappelle que vous allez pouvoir écouter tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur les différents sites, CHU et Mendès France. N'oubliez pas de remplir le formulaire que l'on vous a remis à l'entrée, ce qui nous permet à nous de faire des améliorations, de changer, ou alors de ne rien changer si tout va bien. Il n'y a aucun souci. Vous pourrez le remettre, bien sûr, à la sortie à notre hôtesse. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui sont venus pour la première fois ici ce soir. J'ai peut-être vu quelques-uns que je n'avais jamais vus, donc c'est peut-être votre première. Merci. Je vais vous donner les deux prochains rendez-vous pour ces pôles Info Santé. Le 15 octobre. Et le 3 décembre, 15 octobre et 3 décembre, et il y aura deux thématiques, une pour chaque date, alimentation et la santé, et la deuxième thématique, la douleur. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, merci beaucoup.